J'espère que tout va bien, que vous êtes bien installé. Alors pas forcément confortablement, parce que je me suis laissé entendre dire que certains démarraient leur footing dominical avec Sport Matin Dimanche dans les oreilles. En plus, le temps est plutôt clément ce
matin. Ça les motive.
Ben bah, voilà, ça peut être intéressant. Donc on vous souhaite de belles courses, on vous souhaite peut-être êtes-vous dans la cuisine le moment du petit déjeuner ou pour préparer le déjeuner de ce midi. On vous souhaite en tout cas un excellent dimanche et un excellent SMD à venir avec tout à l'heure et dans quelques instants un retour sur la Coupe de France.
Sport Matin Dimanche avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
Mais auparavant, Noah a été aussi un précieux collaborateur ce matin pour préparer cette émission. Il sera au standard puisque nous vous offrons des places ce matin. Vous notez le numéro de téléphone 05 49 74 36 03. Alors pour ceux qui courent, ça va pas être facile. Mais le jeu, on le remet ce soir dans Sport Dimanche Dernier à partir de 18h. Donc voilà, deux gagnants ce matin, deux gagnants ce soir qui repartiront chacun avec une place. C'est la belle soirée qui vous est proposée par le Football Club de Bressuire. Ce sera le mardi 6 juin prochain à la Sapinière avec buffet dînatoire dans la foulée. Mais auparavant, la belle rencontre avec de beaux acteurs du foot. La thématique, c'est de l'amateur au pro. Quatre invités, Pascal Gassien, excusez du peu, Patrick Parizon, l'ancien entraîneur des Chamois, Philippe Violo, quatre fois champion de France avec notamment Lyon, ancien des Chamois aussi, et puis le responsable du centre de formation des Chamois Niortais, Franck Azopardi. Il y aura pléthore de questions, bien évidemment, plein de sujets abordés, mais on a envie d'en savoir un petit peu plus autour de cette trajectoire du monde amateur au monde professionnel. Deux gagnants ce matin, le 05 49 74 36 03 pour une conférence mardi 6 juin à la Sapinière et ce à partir de 19h. Noah est au taquet. Le football, et on y va avec cette Coupe de France. Les supporters de Sévrien étaient nombreux à avoir fait le chemin jusqu'au Stade de France, mais auparavant, parce qu'il y a eu claque enregistrée par les hommes d'Antoine Comboiré, eh bien on vous propose la réaction de l'entraîneur du FC Nantes après ce 5-1 encaissé et cette victoire des Toulousains.
On a raté notre finale, voilà, tout simplement. On est passé à côté de cette finale avec une entame de match catastrophique. Donc voilà, c'est l'histoire de ce match. Alors bien sûr que, encore une fois, je me répète, mais c'est la déception pour tous les gens qui nous ont suivis, qui sont venus en nombre. Il n'y a pas eu de match, quoi. Et c'est là où on peut être très déçu. Maintenant, voilà, c'est une finale où tu prends une claque, mais pour moi, l'essentiel maintenant, c'est de vite rebondir. Voilà. Je n'oublie pas ce qu'on a fait. C'est notre première défaite en Coupe de France depuis que je suis là. Il faut que ça arrive en finale. Donc bien sûr que c'est pas ce à quoi je m'attendais, c'est pas ce à quoi les joueurs donc s'attendaient non plus. Maintenant, on est très très déçus et puis on sait qu'on a surtout un boulot à qui est très important à accomplir, c'est aller chercher le maintien maintenant.
La réaction d'Antoine Comboiré après cette cruelle désillusion hier soir. Il était au Stade de France, ils étaient au Stade de France avec Jérôme Hérault. Bonjour Jérôme.
Bonjour Vincent.
Vous êtes parti hier matin, vous étiez d'ailleurs sur les ondes de Colline dans le journal avec Fabien à 10h hier. Antoine Comboiré est déçu, j'imagine que les supporters du FC Nantes que vous êtes sont également déçus. Racontez-nous Jérôme.
Oui c'est ça, c'est une déception mais bon il n'y a pas eu de match. Donc après avec l'âge on relativise, on a vécu d'autres finales. Mais là c'était oui un scénario catastrophe. Ouais, d'une demi-heure le match était terminé déjà donc...
On imagine qu'en termes d'ambiance, ce début de match raté doit vraiment plomber la suite.
Oui, oui, ça refroidit une partie du stade. Hein. C'est sûr que là, ça a jeté un froid. Personne ne s'attendait à un scénario comme ça.
On attendait, Jérôme, un match sous haute tension avant même le coup d'envoi. Comment ça s'est passé autour du Stade de France?
Non, l'ambiance était très bonne. Mais tous les supporters étaient mélangés. Enfin. Chacun avait sa partie du stade, mais on s'est croisés dans les rues, l'ambiance était très, très conviviale. Vraiment, rien à dire de ce côté-là.
On n'a pas fait la fête comme on aurait voulu.
Après match, non, c'est sûr, mais bon, c'est les aléas du sport. On ne maîtrise pas tout, mais bon.
Antoine Camboire parlait des échéances à venir. On sait que mercredi, il y a un match crucial, mais ils sont tous importants. Il n'y a pas celui de mercredi. Elle n'est pas simple, la situation, maintenant.
Là, c'est clair que maintenant, l'objectif, c'est le maintien. Comme j'écoutais Antoine Camboire, c'est sûr. Le match à Brest est très très important. Et après, on reçoit Strasbourg. Donc, deux matchs capitaux. Et là, j'espère qu'ils vont montrer un autre visage. Hein.
On a un peu le sentiment qu'on a vu des joueurs nantais à des postes clés qui étaient quelque peu fébriles quand même. Est-ce que c'est le sentiment depuis les tribunes?
Oui, c'est clair. Manque d'envie, je sais pas où. Ça doit pas être la peur, parce que les joueurs sont habitués à ce genre de match, mais après, non, je sais pas, c'est inexplicable.
Bon, ce déplacement reste un beau souvenir. Vous y étiez l'an dernier, Jérôme?
Oui, là, on y était en quart, donc c'est un. D'ailleurs, je tiens à remercier tous les gens qui sont venus avec nous. Remercier particulièrement Elder, Correa et puis Kevin Pereira. Et également Vasco qui nous a emmenés avec Jean. Mais c'est vrai que c'est un beau déplacement. Fatigant, mais bon, un beau déplacement.
Merci beaucoup, Jérôme, parce que je sais que le coucher a été hyper tardif.
Ouais, c'est ça, 6h30, mais bon.
Et juste après avoir raccroché le téléphone, on prolonge la nuit, hein, c'est ça, Jérôme?
Oh, je sais pas, ou cet après-midi peut-être, oui, une petite sieste quand même.
Bon, merci, merci beaucoup, Jérôme.
De rien,
merci.
Bonne journée,
et
Vincent.
Puis allez, le FC Nantes va se maintenir en Ligue 1 de toute façon. Il pourra compter sur les nombreux supporters de Sévrien qui vont continuer d'encourager les jaunes. Mais c'est vrai qu'hier soir, ce début de rencontre, il parlait d'hypercute aussi à un moment donné, Antoine Camboire, après ce début de match complètement raté. Les résultats dans le championnat de Ligue 1, parce qu'on joue quand même cet après-midi. Vendredi soir, Lyon s'était imposé à Strasbourg 2-1. Lille a battu l'AC Ajaccio 3-0. Monaco-Montpellier, Clermont-Reims, Rennes contre Angesco, 3-0. PSG-Lorient et Marseille-Auxerre. Voilà le programme de cet après-midi pour ce championnat de Ligue 1. Dans le championnat de Ligue 2, eh bien, les Chamois foncent tout droit vers le championnat de National. Pas de miracle hier soir en déplacement à Grenoble. Les Isérois se sont imposés 2-0. La prochaine rencontre pour les Chamois-Niortais, c'est samedi prochain, match à René Gaillard avec une équipe qui joue le haut de tableau, à savoir le FC Metz, qui est pour l'heure troisième de ce championnat. On note que Le Havre a quasiment validé sa montée pour la Ligue 1. En tout cas, 31e match sans défaite pour les Normands. Ils se sont imposés dans leur derby face à Caen hier 2-1. Et puis Bordeaux conserve cette place de second et la valide un petit peu plus, puisque les Bordelais, eh bien, eux, se sont imposés 2-0. C'était en déplacement à Valenciennes. Les Messins, je vous le disais, sont trois. Ils ont malheureusement fait match nul à Saint-Symphorien hier face au Paris FC. 1-0. 68 points pour Le Havre, 62 points pour Bordeaux. Et c'est Metz qui est donc troisième avec 59 points. Un mot du championnat de National avec vendredi soir, eh bien, des Choletais qui sont un peu dans le dur quand même. Les hommes de Stéphane Rossi n'ont pu gagner à domicile face aux Sangliers des Ardennes. L'équipe de Sedan est venue en effet s'imposer dans les Mauges. 2-1. Championnat emmené par Martigues et par Concarneau. Deux équipes qui totalisent 56 points. Les Choletais, quant à eux, eh bien, sont 10e avec 39 points. Le maintien n'est toujours pas validé parce qu'on sait qu'il y aura 6 descentes à l'issue de cette saison. Championnat de National 2 avec des Herbiers dans le dur également. Déplacement en Dordogne à Trélissac où les locaux se sont imposés 2-0. Il est complètement fou ce championnat de National 2 puisque Bergerac n'a pu faire mieux que match nul, mais c'était le match au sommet face au Gol FC. C'est le club du Lyonnais, 0-0 donc. Et un trio qui est une nouvelle fois chamboulé quelque peu. Bergerac leader 45 points. Les Herbiers deuxième 43 points. Et le Gol FC, le club lyonnais, est donc troisième avec 42 points dans ce championnat. Notons que l'Olympique de Saumur a perdu sur sa pelouse face à Vierzon 2-0. Des Saumurois qui sont pour l'heure huitième avec 37 points. Championnat national 3 dans la Ligue Nouvelle-Aquitaine, on rattrapait des matchs et la réserve des Chamois eh bien, se donne une quelque peu une bouffée d'oxygène en s'imposant face à Mont-de-Marsan. Victoire des Niortais face au Montois, 4 buts à 1. Et puis Neuville s'est incliné face à Anglette, 2 buts à 1. Chauvigny cet après-midi se déplace à Pau. Les résultats de cet après-midi, vous les aurez ce soir à partir de 18h dans Sport dimanche dernière. Les championnats régionaux, on y vient avec hier soir la victoire du FC Bressuire face à Buxerolles, 2 buts à 1, avec des réalisations de Batet et Epagna pour les deux Sévriens. Mais dans le même temps, les Chorésiens continuent leur marche en avant. Les sudistes du département se sont imposés à la maison face à Ligugé, 2 buts à 0. Une équipe solide qui garde sa place de leader avec Toumain et Gagneur pour les réalisations du FC Choret. La Rochelle a perdu face à Royan-Vaux 2 buts à 1. Thouars va chercher le point du match nul à Rochefort 0 à 0. Et puis Parthenay s'incline lourdement à Saint-Jean-d'Angély 4 buts à 0. Cet après-midi, nos équipes de Sévrienne en lice. Noyaubier à la maison face à la réserve de Poitiers. Et puis Saint-Lizière à la maison également face à Montmorillon. Le championnat de Régional 2 avec le Rouen-Angoulême qui s'incline face à Chauvigny 4 buts à 0. La réserve du FC Bressuire qui s'incline sur sa pelouse face à la réserve de Châtellerault 3 buts à 1. Et puis puisque l'on parle de cette réserve du FCB, on le savait hein, que Jérôme Deniaux ne serait plus l'entraîneur la saison prochaine. Du côté du FCB, eh bien, c'est Quentin Brebion et Jackie Compagnon qui étaient déjà dans cette équipe, hein, dans ce staff bressuré, eh bien, qui s'occupait d'une réserve, eh bien, qui vont monter maintenant en quelque sorte pour s'occuper l'année prochaine de la Régionale 2. Le Talus s'est imposé un intré 1 but à 0 et puis Montcoutant a chuté à Saint-Savin-Saint-Germain 4 buts à 1. Cet après-midi, un derby de Sévrien entre Saint-Sauveur et Saint-Florent et puis Échiré-Saint-Gelais à la maison face à Beaumont-Saint-Cyr. Régionale 2, la poule B avec cet après-midi la réserve de Choret qui joue face à Charente-Limousine et puis en Régionale 3 dans la poule A. Vous noterez que Buxerolles s'est incliné face à Ligugé dans ce duel de réserve 2-0. Aubin-Rortais à la maison cet après-midi face à Saint-Varan-Pierget. Thouars en déplacement au Portugais de Châtellerault. Saint-Cerbouillé se déplace à Auzon. Et puis le Pays de Loing reçoit le CO Cerizet. Régional 3, la poule B avec le 0-0 entre Selverine et Vouillé. Et puis on notera également le match nul du Pays Mexantais en déplacement à Onis-Avenir. Pays Mexantais face à Onis-Avenir, 3 buts à 1. Onis-Avenir, leader, ne l'oublions pas, dans ce championnat. Les autres rencontres, l'Avenir 79 cet après-midi face à Saint-Lizière, le Pays Mélois à la maison face au Pays Onis, et puis Saint-Florent qui joue face à Effres. On vous rappelle notre jeu ce matin. On vous fait gagner des places pour la belle conférence, la belle rencontre avec proposée par le FC Bressuire. Ce sera le mardi 6 juin, 19h, à la Sapinière, suivi d'un buffet dînatoire. Mais auparavant, une belle rencontre avec Pascal Gassien, qu'on ne présente plus, Patrick Parizon, l'ancien entraîneur des Chamois, Philippe Violo, 4 fois champion de France, et puis Franck Azopardi, le responsable du centre de formation, tous anciens des Chamois qui viendront parler de cette thématique de l'amateur au monde professionnel. Il y aura plein de sujets à aborder. C'est une belle soirée en perspective. Vous appelez le 05 49 74 36 03. Noah est au taquet. 2 gagnants ce matin qui repartiront chacun avec une place pour ce beau rendez-vous du mardi 6 juin prochain. Résultat des championnats départementaux avec hier soir en D1 Terves qui s'est incliné au FC Autise 2 buts à 0. Cet après-midi, l'Interbocage peut faire un pas vers la montée s'il s'impose à Frontenay à Saint-Forien. Le Talus face à Mauzé-sur-le-Mignon, le Pays Argentonais face à Gatifoot et Saint-Aubin-le-Clou à la maison face à Hervaux-Saint-Join. En départemental 2, hier soir, la réserve du CO Cerizet s'est imposée face au FC 3C, Chanteloup, Courlet, Chapelle. Les réservistes du COC s'imposent 3 buts à 1. Cet après-midi, le FC Comore face à Beaulieu-Breuil. Louzy accueille Parthenay-Viennet. Montcoutant, Vraire-Saint-Léger. Le Pays Tenzéen face à Thouars. Saint-Varan-Pierget à la maison face aux Portugais de Cerizay. Et puis en départemental 2, Noah a décidément très bien travaillé avec le Val de Boutonne face au FC Boutonnais dans ce derby boutonnais. Avantage au Val qui s'impose 2-1. Et puis Beauvoir l'a emporté face à Effre 3-2. Brulin-Val, Choret et Chiré-Saint-Gelais, Sainte-Martin-les-Mels, La Crèche et Sud-Gâtine face à Bucelor. C'est le programme de cette départementale 2 dans la poule sud pour cet après-midi, des matchs à 15h. Résultat, réaction ce soir à partir de 18h. On clôture cette page de football avec demain le beau tournoi du 1er mai organisé par le FC Bressuire. Le tournoi Régis Gravelot avec plein d'enfants qui vont déambuler sur le stade de Métayer. Vous ne manquerez pas d'aller faire un tour sur ce beau tournoi Régis Gravelot. Il m'a fait signe, on est dans les temps, ça veut dire mon cher Hugo. 10h18, bonne matinée. On vous rappelle que vous pouvez gagner des places. Je rappelle juste le numéro pour la belle soirée proposée par le FC Bressuire. Mardi 6 juin, football de l'amateur au pro avec Pascal Gassien, Patrick Parizon, Philippe Violo et Franck Azopardi. Vous appelez le 05 49 74 36 03. Vous avez la possibilité de remporter une place pour cette belle soirée du mardi 6 juin. Allez, excellente matinée à tous. On se retrouve juste après et on ouvre la passe basket. Bien compris le message, mon cher Hugo. J'espère que tout va bien, que vous êtes confortablement installé, que vous passez un très bon dimanche matin. C'est Sport Matin Dimanche avec les principaux résultats de football. Les Chamois qui perdent à Grenoble 2-0. Les réactions d'un supporter nantais. On en avait une tout à l'heure puisqu'il était au Stade de France avec la délégation partie hier matin de Cerizay. La claque pour les Nantais, 5-1 face à Toulouse hier. Et puis deux résultats en régional 1. Choiret ne lâche rien, victorieux de Ligue UG 2-0. Les Bressuirais, eux, se sont imposés 2-1 à Buxerolles, mais c'est Choret qui mène le bal dans ce championnat.
Sport Matin Dimanche avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
Allez, on ouvre la page basket avec un retour sur la finale de mercredi dernier, finale de la FIBA Europe Cup, le match retour. Les Choletais, vous le savez, avaient perdu de 4 points au match aller. Il fallait donc rattraper ce débour et les Choletais se sont inclinés 80-78. Vous avez suivi peut-être la rencontre sur les ondes de Colline. On vous propose un retour sur cette finale perdue, malgré tout sur ce beau parcours, avec trois mastodontes du basket Choletais, du basket français. J'ai nommé Cédric Ferchaud, Jim Bilba et Antoine Rigaudot. C'est dire qu'on va prendre plaisir à écouter nos trois experts qui reviennent sur ce match, sur ce parcours et puis sur cette identité choletaise. La parole tout d'abord à Cédric Ferchaud qui reconnaît que Cholet a perdu certes, mais face à un très beau vainqueur polonais, les joueurs de Wroclawek ont été très bons.
La plus régulière, la plus solide. Ce genre d'équipe où on dit attention au shoot à 3 points et puis malgré tout on a beau mettre tout ce qu'on veut en place, ils arrivent à trouver des solutions parce que ça se passe bien la balle. Pourtant ils ont pris la foudre, ils ont réussi à l'image de Cholet au match aller, rester solidaires et puis pas se désunir. Et en plus de ça, ils ont eu des fautes. Hein. Il y a eu des joueurs à 3 fautes, il y a eu un danger de leur côté. Et à un moment donné, là, les petits shoots à 3 points qui rentrent pas malheureusement, qui tournent autour du cercle, c'est la beauté du sport. Bravo à eux, on espère que Cholet aura d'autres occasions de gagner des finales. Maintenant, ce qu'on va retenir, c'est l'ambiance incroyable qu'il y avait ici, même si tout le monde est un petit peu déçu.
On va y revenir sur cette ambiance avec Cédric, bien évidemment. Avec Cédric Ferchaud, on revient sur le fait marquant de cette finale, c'est l'absence de Patton. Il avait été blessé au genou lors du match aller. On avait attendu un petit peu du côté de Cholet Basket avant de communiquer pour ne pas dévoiler les plans vis-à-vis de l'adversaire, mais incontestablement, l'absence de l'intérieur choletais Justin Patton a été un handicap.
Il y a des gens qui disent on va pas se cacher derrière ça, il y en a d'autres qui disent que ça a pesé très lourd. Moi, je pense que bien sûr ça pèse. Parce que c'est pas la seule, il y a Kim Tilly, il y a Gaylor Currier. Et en plus de ça, le jour du match, on apprend que Patton ne peut pas jouer. Patton m'avait beaucoup plu parce que c'est un joueur qui n'est pas très expressif. Et on l'a vu sur les phases finales, emmener toute son équipe, montrer d'émotion, sans jaillir avec le public. Et ouais, il a manqué ce soir dans la rotation, forcément. Il a manqué d'un petit facteur X, là, on le voit sur les finales où il y a un joueur du banc qui va prendre le feu à 3 points, qui va en mettre 3, qui va remettre tout le monde sur les rails. Il n'y a pas eu ça ce soir, il n'y a pas eu cette petite magie supplémentaire. Bon, c'est comme ça, on espère qu'il y en aura d'autres.
On espère qu'il y en aura d'autres, bien évidemment, du côté de Cholet Basket. Cédric qui veut retenir, certes, la déception, comme pour Antoine Camboiré, sauf qu'Antoine Camboiré ne va pas parler de fierté, au contraire de Cédric Ferchaud.
Premier mot, c'est déception. Et après, c'est fierté, la fierté pour le club, la fierté pour les joueurs, parce qu'ils ont quand même fait une saison européenne incroyable. Alors bien sûr, on aura aimé célébrer, tout le monde s'était projeté, tout le monde s'était imaginé ce scénario, malheureusement un peu trop parce que maintenant ça fait mal, mais un beau vainqueur franchement, avec un bel état d'esprit, deux équipes qui se ressemblent, ils ont été meilleurs ce soir sur l'adresse, donc bravo à eux.
Bravo à eux et bravo effectivement au public choletais qui aura marqué de son empreinte cette rencontre.
Oui, c'est bien, et puis c'est beau de voir le public choletais féliciter ses adversaires, les applaudir sans siffler, reconnaître la supériorité du soir, parce qu'ils sont pas supérieurs à Cholet, ils ont juste été meilleurs ce soir, un petit peu meilleurs, donc c'est comme ça, les choletais ont fait des efforts incroyables, on a vu le nombre infernal de rebonds offensifs, malheureusement l'équipe adverse leur a rendu coup pour coup, avec un peu plus d'adresse à trois points encore une fois, ce qui a fait la différence.
Le regard de Cédric Ferchaud, c'était le 20e match des Choletais dans cette campagne européenne, une campagne européenne qui avait débuté 210 jours auparavant avec le fameux tournoi qualificatif qui lui aussi avait débuté à la Meilleraie. Autre expert qui nous livre son regard sur cette finale perdue, c'est Jim Bilba, et ça tombe bien parce que Jim a été honoré par le Cercle Saint-Pierre de Limoges puisqu'il y a maintenant un tout petit peu plus de 30 ans, il devenait champion d'Europe avec le Limoges CSP, et il ne veut pas tout jeter parce que lui aussi, alors certes on va revenir sur cette finale gagnée il y a 30 ans, mais c'est ce qu'il va dire, et attention, j'en ai aussi perdu des finales avant de gagner celle-ci, donc il croit dans ce parcours choletais.
Mais faut pas oublier qu'avant de la gagner, j'en ai perdu pas mal aussi. On en a perdu pas mal. Donc, des fois, avant de toucher le Graal, quand on a cette chance, il faut en avoir perdu.
C'est ce que vous auriez envie de dire aux Choletais ce soir, aux basketteurs, quoi. Certes, il y a de la frustration, mais ça peut aider.
Il n'y a pas de mots hein, pour eux. Moi, la seule chose que je leur ai dit, c'est merci pour ce qu'ils ont fait, merci pour leur parcours. Et après, bon, eux, ils verront avec les jours, ça va passer, mais c'est pas facile à digérer.
Il va falloir effectivement digérer du côté de Cholet Basket. On va y revenir juste après notre roi, puisque les Choletais jouent cet après-midi à 15h30 sur le Rocher face à la Roca Team. On sera avec Laurent Villa qui nous confiera ses impressions. Le dernier de nos experts, c'est Antoine Rigaudot. Il s'exprime très peu dans les médias. Il était hier mercredi soir du côté de la Meilleraie. Lui aussi, d'abord, ce qu'il retient, c'est la déception.
Tout le monde est déçu évidemment parce qu'un titre c'est toujours ce qui reflète et ce qui brille pour un club. Maintenant il y a encore un travail de formation et ça va continuer les années à venir et je suis sûr qu'il y aura des titres qui vont arriver grâce à cette formation et grâce à l'envie et à la passion que tout le monde a ici à Cholet.
Un Antoine Rigaudot qui prend le costume de véritable ambassadeur parce que certes, il y a la déception, mais écoutez bien les propos d'Antoine Rigaudot. Je ne sais pas s'il nous écoute ce matin parce qu'il avait dit « Vous n'êtes peut-être pas capable de citer toute la tirade que je viens d'exprimer à votre micro. » Eh bien si, monsieur Rigaudot, nous on peut le faire sur les ondes de Colline, on peut tout faire.
Parce qu'il y a 37 titres chez les jeunes à Cholet Basket. Il y a 7 joueurs qui ont joué en NBA, qui sont passés par le centre de formation de Cholet Basket. Il y a 4 joueurs qui ont une médaille olympique d'argent. Il y a 4 joueurs qui ont au moins un titre d'Euroleague. Il y a 15 internationaux qui sont passés par le centre de formation de Cholet Basket. Et il y a environ 70 joueurs qui ont joué professionnel, et tout ça en 35 ans. Il n'y a pas d'équivalent en France, donc ça reste une vraie identité choletaise de la formation. C'est la meilleure formation en France et de loin. Et ça serait bien et intéressant de savoir si en Europe il y a des clubs qui ont ce style de formation, ou en tout cas qui ont sorti autant de joueurs. Donc pour moi le plus important, ça reste cette identité choletaise de la formation. On a encore vu des joueurs formés à Cholet.
Il ne croit pas si bien dire Antoine Rigaudeau, puisqu'il y a un nouveau titre qui vient de tomber dans l'escarcelle de la formation de Cholet Basket, puisque les espoirs, au regard de leur victoire hier face aux espoirs monégasques, eh bien, deviennent pour la 8e fois, eh bien, champion de France de la catégorie espoir. C'est dire si cette identité choletaise dont parlait Antoine Rigaudeau, eh bien, elle est ancrée avec tous ces titres passés, mais encore ces titres à venir, à l'image de celui-là glané par les hommes de Régis Boissier. C'est tout cela, Cholet Basket. C'est pas seulement l'équipe phare, l'équipe Fagnon, mais c'est aussi toute la formation qui se fait derrière. Voilà, ce retour sur cette finale, certes perdue, mais quel beau parcours, quelle belle ambiance également. Et puis, merci à tous ces experts d'avoir livré leur regard au micro de Colline, Cédric Ferchaud, Jim Bilba et Antoine Rigaudeau. Un petit mot de basket maintenant. Aujourd'hui, cet après-midi, on l'a dit, les Choletais s'en vont jouer à 15h30 face à Monaco. François Larue, lui, a rencontré Laurent Villa. Alors, il y a peut-être un peu d'intox du côté des Monégasques, parce qu'ils sont engagés dans leur Euroleague, dans leur Coupe d'Europe, et ils doivent défier le Maccabi Tel Aviv. Pour le moment, c'est au meilleur des 5 manches. Pour le moment, on en est à un partout. Ils vont jouer les 2 prochains matchs au Maccabi Tel Aviv, sauf qu'entre dans cette compétition européenne, il y a ce petit match-là de la Betclic Elite qui a lieu cet après-midi. Et l'entraîneur monégasque avait dit, moi, ça m'est égal. Il a dit, je m'en fous, pour tout vous dire. Je fais l'impasse sur cette rencontre. Alors Laurent Villa, lui, le coach choletais, comment est-ce qu'il prend cette remarque de l'entraîneur monégasque?
C'est légitime, en plus. C'est des choses que Villeurbanne a vécu, que Kimti a vécu avec les équipes de Euroleague où il était, puisqu'on a échangé là-dessus. Et on peut même, de notre point de vue, anticiper ce genre de comportement. Après, bien entendu, il y a des compétiteurs en face, il y a des joueurs qui vont faire le match, et ça sera à nous de montrer tout de suite dans l'intention, d'être dur, et certainement qu'ils baisseront la garde à un moment donné, ou pas.
Et pour le moment, eh bien, Laurent Villa est lui plutôt content du retour de ses joueurs sur le parquet. Il y avait eu la pause juste après jeudi, on a fait l'impasse. Retour sur le parquet vendredi. Et à l'issue de cet entraînement au micro de François Larue, eh bien, Laurent Villa était plutôt content de l'attitude de ses joueurs.
Moins de 48 heures, on a fait un bon entraînement, les investissements, de l'écoute, des efforts sont faits défensivement, parce qu'il faut intégrer notre nouveau joueur, deux, parce qu'il y a aussi Bogdan qui a envie de jouer maintenant la compétition, mais tous les autres se sont mis et voilà, c'est l'implication est là de tous. Alors bien sûr, on a encore un petit peu mal au cœur, mais on va vivre avec et puis on se tourne maintenant vers la compétition. On sait qu'on a 6 matchs en grosso modo 15 jours. On a nos objectifs aussi et donc on doit maintenant tout faire pour gagner les prochains matchs.
Laurent Villa, qui lui est quand même aussi content parce que, eh bien, Patton blessé, pigiste médical avec James Thompson et qui apporte de la fraîcheur.
On échangeait sur ça justement quand je l'ai au téléphone avant qu'il signe. C'est de toute façon, vu son dynamisme et son énergie, ça va nous faire du bien quoi qu'il en soit pour avoir un regain d'énergie justement sur cette fin de saison. Parce que bon ben il a de la fraîcheur, il veut montrer des choses, voilà, c'est tout nouveau aussi, donc puis ça met un focus aussi pour les autres joueurs, pour savoir comment ils jouent. Et déjà quand on voit sa qualité d'écran, ses réflexes défensifs, quand on va voir sa grinta pendant la compète, bon voilà, ça va redonner des choses intéressantes au groupe.
Allez, ce soir, 15h30, résultat à 18h dans Sport Dimanche Dernière. La pub.
Sport Matin Dimanche avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
Ah, moi j'adore, on joue les prolongations, Vincent.
La troisième mi-temps, mais la belle troisième mi-temps avec un petit retour sur le basket. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver en podcast le retour sur cette finale de Coupe d'Europe perdue mercredi par les Choletais. C'était mercredi soir. Nos experts Cédric Ferchaud, Antoine Rigaudeau, Jim Bilba nous ont confié leurs impressions. Laurent Villa, lui, a parlé du match de cet après-midi à 15h30 face à Monaco. Et puis ce soir, le résultat. Et puis il y aura aussi la rediff de ce Sport Matin Dimanche. Il n'y a pas de sponsor. Allez, on attaque. Deux résultats de basket. Il en manquait deux pour être complet. C'est la défaite des Niortais face à Bordeaux. Hier soir, les Bordelais, la JSA s'est imposée 95 à 78. C'est de la National 2. Et puis un résultat en Régional 2 féminine. Les Bressuirezes, les réservistes, avaient un match important face à Saujon qu'elles ont gagné 67 à 62. Elles peuvent monter en pré-national féminine, sauf qu'il faut que l'équipe Fagnon de ce club du Réveil Bressuirais accède à la Nationale 3. Mais pour l'heure, cette fin de championnat marque la première place. Elle verrouille finalement cette montée possible. L'équipe 2 du Réveil Bressuirais bien joué avec cette victoire hier face à Saujon. Un autre entraîneur, alors c'est peut-être le premier entraîneur heureux, je suis en train de me dire. On a eu Comboiré déçu, on a eu du Laurent Villa, forcément un petit peu déçu et qui se projette sur son match de cet après-midi. Eh bien, on va lui poser la question. On va parler de hand avec Jean-Étienne Matuiseau. Bonjour Jean-Étienne.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous sur les ondes de Colline. Vous êtes l'entraîneur de cette Nationale 2 de Celles-sur-Belle. On parle de hand. Je pose la question d'entraîneur heureux parce que quand on dispute son 21e match et qu'on en a gagné 20, forcément que la saison doit être belle, Jean-Étienne.
Oui, totalement. C'est vrai qu'en plus, on avait à cœur sur cette 21e journée, de pouvoir célébrer notre montée avec notre public. Donc oui, on est complètement très heureux et satisfait de ce parcours qui n'est pas encore terminé.
Quelle a été la force, même si c'est pas terminé, on va revenir après sur la suite de la saison et sur la fin, mais quelle a été la force de ce groupe? On n'arrêtait pas nous chaque dimanche d'annoncer victoire, victoire, victoire.
Alors c'est tout d'abord le travail, parce que c'est beaucoup de... Alors c'est un amalgame de plusieurs profils de joueuses, mais pour majorité des très jeunes joueuses, des jeunes joueuses qui sont sur un parcours d'excellence en Pôle Espoir, une partie de joueuses qui sont en centre de formation au sein du club, des jeunes joueuses de notre formation qui suivent le parcours depuis qu'elles sont toutes petites au club, et puis après quelques jeunes joueuses qui sont beaucoup plus expérimentées, comme Nelly Delchev ou Laura Bélier, qui ont un parcours déjà derrière elles.
Alors justement, dans cet effectif, vous parlez de Delcheva, la maman, mais qui joue aussi avec sa fille. Ça doit être particulier à coacher, ça.
Ah oui, c'est pas particulier à coacher, je pense que
ça doit être beau, même peut-être.
Voilà, c'est un moment qui doit être qui est fantastique, je pense, pour un maman et sa fille de pouvoir vivre ça ensemble sur un parcours avec de la compétition et de l'engagement. Nelly est arrivée dans le groupe réserve après sa carrière professionnelle au club, etc. Et ça fait maintenant 6 saisons qu'elle était avec la N2 et les deux années Covid ont peut-être aidé un petit peu ce choix-là, parce que Nelly voulait terminer sur une saison complète. L'année dernière, on échoue de peu sur notre objectif de montée déjà. Et l'opportunité de pouvoir jouer avec Marie cette saison fait que c'est un moment, ça a été vraiment un parcours vraiment très particulier pour elle, et dont Nelly avait à cœur à faire avec sa fille un peu une transmission en fait.
La suite maintenant, il faut aller le chercher ce titre national, Jean-Étienne.
Oui, totalement. Il faut qu'on aille chercher cette victoire face à Limoges le 20 mai pour pouvoir prétendre à aller défendre nos chances sur le titre national et contre un adversaire ultramarin, et pour être le meilleur des premiers, la victoire est requise.
Ça semble dans les cordes.
ça peut être dans les cordes. Après, on peut pas parler d'un résultat, mais Limoges est un rude adversaire qui est deuxième, qui, je sais, va défendre très durement sa peau, et que faudra qu'on aille la chercher en fait. C'est le terme est vraiment là. Faut qu'on aille chercher notre qualification. Il faudra qu'on combatte pour, et va falloir que qu'on donne le meilleur de nous-mêmes sur ce dernier match de championnat dans notre poule pour se rendre à Paris, et puis là il y aura encore une autre affaire à faire.
Merci beaucoup coach.
Merci à vous.
Merci Jean-Étienne. Bon dimanche, il sera forcément bon.
Oui, oui, le dimanche, le samedi a été bon et on va faire en sorte que le dimanche le soit aussi.
La voix est un petit peu éraillée, je pense.
Ouais, là, ouais, j'ai pas parlé depuis ce matin, donc du coup la voix est un petit peu rugueuse.
C'est très gentil. Merci à vous.
En tout cas à vous et puis bonne fin de journée à vous.
C'est gentil. Merci Jean-Étienne Mathuiseau, l'entraîneur de cette équipe de National 2 qui s'est imposée à la maison face à La Rochelle 28-16. On signalera qu'en National 1, eh bien les Montcoutantaises ont perdu à Pessac, leader de ce championnat, défaite 37-23. On part maintenant du côté du Raid des Gaillards avec cette très belle organisation pour le RSE, le Rortais Sport Endurance. Alors, du VTT, de la course à pied, de la course d'orientation également. Il fallait avoir les jambes, il fallait aussi avoir la tête parce qu'on donne une carte et puis après, il faut aller chercher des balises. On va d'abord retrouver Patrick Baron qui est le président du RSE et qui a été particulièrement content de cette deuxième édition hier.
On est très content de cette édition. Là, on a rempli à 100%, c'est-à-dire 200 concurrents. 200 concurrents. Donc, on est vraiment très content cette année par rapport à l'année dernière. On a rempli à 100%.
Ça a rayonné partout. Hein. Il y a Moléon, il y a eu des épreuves à Moléon, au château de Boissière, à Neuilly.
Alors, cette année, le raid commençait au Bicross de Moléon, pour ceux qui connaissent. Ensuite, on les envoyait sur un trail orientation à Rortais. Rortais, on passait sur Neuilly-les-Aubiers, le bois de la Durbelière, le château de Boissière, et puis on revenait sur Moléon, avec une dernière CO qui a permis de départager les concurrents.
On reviendra ce soir dans Sport dimanche dernier sur cette belle épreuve avec notamment Patrick Baron, mais également avec l'architecte de cette épreuve, Nicolas Talon. Du côté des vainqueurs, alors il y avait deux épreuves en fait. Il y avait le petit raid des Gaillards qui débutait à 14h avec une arrivée obligatoire à 18h, sinon il y a des pénalités. Et puis il y a le grand raid. Alors du côté du petit raid, c'est un duo féminin de Sud-Loire Raid Aventure, Alison et Laura qui se sont imposées et elles étaient toutes auréolées, toutes surprises, toutes contentes parce que Laura, eh bien, pour elle, c'était son premier raid. Donc forcément, il y a de la satisfaction pour Laura et pour Alison également.
Premier raid à toutes les deux, donc c'est super sympa, c'est super cool. Le parcours était top et on a bien géré et on voulait rentrer à l'heure et on a tout fait ce qu'on voulait faire et voilà.
Ben moi c'était mon premier raid.
Carrément le premier.
Oui, premier raid de toute ma vie, coaché par Alison et ma maman qui nous a fait toute la stratégie aussi. Mais franchement on est très contentes, on les est déjà très contentes avant.
Oui parce que c'est ça, hein, le raid c'est pas simplement une course où il faut aller très vite, c'est hyper stratégique. C'est ça.
Là, on a dans le roadbook, on s'est dit au début, on a dit bah, ça et ça, on va éviter parce qu'on va perdre du temps. On s'est mis notre timing et on a essayé de le respecter un maximum pour pouvoir rentrer à l'heure. C'était vraiment important de rentrer à l'heure.
Et on l'a bien rattrapé.
Et c'est quoi le plus dur?
Le plus dur,
course vélo,
c'est ça. Ça c'est parce que pour le muscle et tout ça, il faut c'est dur.
Mais c'est plutôt beaucoup d'amusement, franchement. Plus que dur, c'est plus d'amusement.
Alors première victoire. Et puis première visite ici dans notre bocage aussi, j'imagine. Quelles sont vos impressions?
C'est un très beau paysage. On a vraiment, il y a des endroits qui étaient magnifiques avec enfin des beaux bâtiments, des fleurs partout. Enfin, c'était magique. Et non, un très beau paysage. On a eu un temps magnifique en plus. Donc c'était super, vraiment varié. Je partage la partie dans les fleurs avec les ruines et tout. C'était vraiment super.
Allez, on va saluer Alison et Laura parce que je sais qu'elles vont nous écouter. Peut-être pas dès ce matin, mais comme il y a le podcast, comme j'aurais bien vendu ce sport matin dimanche. Elles sont de Vertoux, nos Vertaviennes donc. Hein, c'est ainsi Alison et Laura qui avaient fait le déplacement avec tout un groupe pour ce raid des Gaillards. Elles sont un peu surprises hein, de cette première place. Alors que du côté du grand raid qui lui avait débuté à 10h pour aussi se terminer à 18h, Franck et Benoît, écoutez bien, ils arrivent de la Normandie, de Caen, leur club les Vikings Azimutés. Eux, ils venaient avec la ferme intention de s'imposer parce que l'an dernier, ils avaient eu la médaille en chocolat. Vous allez entendre Benoît qui en parle. Donc cette année, ils revenaient avec de sérieuses intentions et ils ont été très très bons.
Alors l'an dernier, on était déjà venu pour la première édition. On avait ramené la médaille en chocolat. Donc on était un peu frustrés. On est revenu les crocs bien bien longs. Notre force, c'est que en amont, avant le raid, on prépare une stratégie assez bien calée, du fait qu'on savait que tout ne serait pas possible à prendre.
Oui, parce que c'est ça, hein, la spécificité des raids, c'est que c'est d'abord une épreuve stratégique.
C'est de la stratégie, c'est avant tout de la stratégie et de l'orientation.
Donc on se dit quoi quand on bâtit la stratégie ? On se dit on va prendre telle balise.
On se dit on regarde d'abord les sections qui rapportent le plus de points. Voilà. Donc là clairement c'était annoncé d'ailleurs par l'organisation, c'était les courses d'orientation qui rapportaient le plus de points. Donc on avait privilégié les courses d'orientation au détriment de certaines balises de VTTO et aussi le run and bike. On savait que le run and bike était costaud, qui rapportait pas beaucoup de points. Donc dans la stratégie d'avant raid, on avait déjà décidé de ne pas faire le run and bike.
Vous ramenez beaucoup de balises.
118 sur 145, je crois. Ouais, c'est pas mal.
Donc 118 balises aujourd'hui. Combien de kilomètres vous avez parcouru alors ?
112
kilomètres.
112 kilomètres pour 130 annoncés. Voilà.
Ouais, donc vous avez bien tourné.
Ouais, on a bien tourné. On s'était dit que si on faisait 110 km, ça serait un très beau raid. On en fait 112, c'est un très beau raid. On s'est fait très peur. On a crevé. En fin de raid, ça nous a mis un petit peu dans le rouge pour rentrer dans les dernières sections. C'est vraiment fait très très peur sur la fin.
Alors un mot sur ce bocage. Je sais qu'il y a le bocage normand, ce bocage de Sévrien. Là, vous le jugez comment ?
Bah, c'est hyper. Alors c'est beaucoup plus roulant que le bocage normand, mais c'est très différent. On sait qu'on va rouler plus vite, ce qui nous permet d'adapter la stratégie aussi. Mais c'est super. Hein. Il y a de beaux chemins, des chemins secs, des chemins gras. Donc c'est très diversifié quand même s'il y a moins de relief que chez nous.
Et puis on est d'accord, on choisit pas, mais il y avait une météo plutôt sympa pour être dans l'effort.
Alors pour nous, c'est clair que c'est la météo idéale. Ben comme moi, on supporte assez mal la chaleur. Donc 18-20 degrés, c'est parfait pour nous.
Franck et Benoît, les vainqueurs du Grand Raid, alors les 118 balises sur les 145, les 112 kilomètres, dans le temps imparti, hein, départ 10h, il fallait absolument arriver avant 18h. On reparlera ce soir du Raid des Gaillères, la deuxième édition, avec des gens satisfaits et qui vont nous en dire un petit peu plus sur ce VTT, sur ce run and bike et puis également sur cette course d'orientation.